Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée du média suivant. La presse. Au programme, des poupées au service de la société. Quel rôle le vélo peut-il jouer dans l'économie? Petite histoire du féminisme au Québec. Et se plaindre de l'inflation, mais dépenser comme avant. Bonne écoute.
Des poupées au service de la société. Un texte de Extra Femme, paru le 9 mars 2023 dans La Presse. C'est en 2019 que Clara Day Lewis s'est engagée à révolutionner le monde des jouets pour enfants en créant Brown Diva Dolls. Son but? Aider les enfants afro-descendants à avoir une meilleure estime d'eux-mêmes grâce à des poupées qui leur ressemblent. Rencontre avec une femme qui a su conjuguer son identité, son rôle de mère et de travailleuse sociale avec son projet entrepreneurial. La genèse de l'entreprise. Nous avons tous eu des poupées blondes aux yeux bleus quand nous étions jeunes, fait remarquer l'entrepreneur. Or, selon Clara Day Lewis, cette façon hégémonique de représenter la beauté a une incidence négative sur l'estime des enfants issus de la diversité. En réfléchissant, comme une afro-descendante, comme une mère et comme une travailleuse sociale, elle a vu l'idée des poupées lui apparaître clairement. Grâce à elle, il y a moyen de sensibiliser les jeunes à la différence dès l'enfance, et ce, par le jeu. J'ai moi-même accepté ma différence à l'âge de 40 ans. Longtemps, j'ai tout fait pour avoir des cheveux lisses, pour ressembler à ces standards impossibles à atteindre pour bien des gens, dit Clara Day Lewis, fondatrice de Brown Diva Dolls. De travailleuse sociale à entrepreneur. Lorsqu'on lui demande si elle a toujours eu ce rêve de se lancer en affaires, Clara confie « Ma mère était couturière et travailleuse autonome. » Le monde des affaires faisait donc partie de ma vie de famille. Des idées, elle en a toujours eu, mais elle souhaitait les garder pour plus tard et se diriger d'abord vers sa première passion, la relation d'aide. « J'ai ça dans mon ADN », dit-elle. Ce n'est donc pas pour rien que le projet de Brown Diva Dolls unit à merveille ces deux pans de sa personnalité. Femme, mère et entrepreneur. Lorsqu'il est question d'entrepreneuriat au féminin, plusieurs défis nous viennent en tête, et ils sont plus présents lorsqu'ils sont conjugués avec le rôle de mère. Le parcours de Clara ne fait pas exception à la règle. Si c'est plus difficile pour les femmes en affaires, ça l'est encore plus pour les afro-entrepreneurs, explique-t-elle. Étant mère en plus, je ne peux pas faire plusieurs événements de réseautage par semaine. C'est donc plus long de sortir de mon cercle de connaissances de base. Cela dit, la maternité a également nourri la nature de son entreprise en l'amenant à être plus consciente du monde actuel. L'incidence de la représentation positive. Si jouer à la poupée développe les aptitudes psychosociales des jeunes, l'activité a aussi le potentiel de les aider à avoir de l'empathie pour la différence, en plus de servir de prétexte à des conversations importantes. Un sentiment de bonheur anime l'entrepreneur lorsqu'elle reçoit des témoignages de mères blanches qui ont pu aborder la question du racisme à la maison grâce au Brown Diva. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle refuse de dire que ces poupées sont uniquement destinées aux enfants noirs. Les poupées sont pour tous les enfants. Plus les jeunes sont en contact avec la différence, plus nous allons créer des adultes conscients de celle-ci, dit Clara Day Lewis, fondatrice de Brown Diva Dolls. La poupée comme moyen d'expression. Chose certaine, Brown Diva Dolls a le vent dans les voiles. L'entreprise vient de lancer une poupée représentant la docteure Alexandra Bastiani, première femme noire à être devenue cardiologue d'intervention au Canada. Si ce genre d'initiative remplit Clara Day Lewis d'une grande fierté, rien n'égale celle qui accompagne le fait de savoir que ces poupées sont reconnues comme un outil éducatif. Elles sont utilisées dans certains endroits pour des animations sur le vivre ensemble, souligne-t-elle. Il reste qu'il y a peu de poupées noires dans les écoles, les garderies et les centres de la petite enfance, CPE. Clara et son équipe travaillent donc à créer une trousse d'animation-intervention clé en main qui se révélera idéale pour ces établissements. C'était « Des poupées au service de la société », un texte de Extra Femme paru le 9 mars 2023 dans La Presse.
Kiosque Magazine.
Quel rôle le vélo peut-il jouer dans l'économie? Un texte de Jean-François Réau, paru le 11 mars 2023 dans La Presse. La véloconomie, ou les activités et retombées économiques du vélo, est un sujet qui gagne en popularité dans différents pays et grandes villes. Depuis 2021, la France dresse un état des lieux des acteurs, des forces et des faiblesses de l'industrie du vélo du pays. Le gouvernement français a compris que le développement du vélo et de sa filière économique constitue un élément prometteur pour son économie et qu'il s'agit également d'une réponse aux enjeux de transition écologique et de santé publique. Le vélo au Québec atteint des sommets. Ces dernières années, la pratique du vélo est devenue plus populaire que jamais au Québec, aussi bien pour se déplacer que pour le loisir, tant sur la route que sur sentier. Le vélo représente d'ailleurs la troisième activité physique parmi les plus pratiquées dans la province, constitue le loisir hebdomadaire de 1,6 million de Québécois et le moyen de transport occasionnel de 2,1 million de personnes. Cette popularité a généré des dépenses de 565 millions de dollars en achats de vélos et équipements en 2020. Et la croissance du secteur apparaît sans limite avec l'explosion du vélo à assistance électrique. Les atouts de la province sont d'ailleurs nombreux. Une demi-douzaine de fabricants de vélos reconnus dans le monde, la plus grande véloroute en Amérique du Nord, la Route Verte et ses 5300 km, un réseau cyclable urbain de 5500 km, plus de 20 villes qui disposent de systèmes de vélos en libre-service et un parc de vélos 10 % plus important que celui des autos. 40 milliards de dollars en France. La France vient de renouveler en septembre 2022 son plan national vélo 2023-2028. Ce projet politique s'appuie notamment sur le souhait de réindustrialiser la France du vélo et de faire profiter le territoire de la valeur économique de ce secteur. Après un premier plan de 450 millions d'euros lancé en 2018 pour 5 ans, pour la seule année 2023, le gouvernement prévoit des investissements de 250 millions d'euros. Ce choix politique fort s'appuie sur des données probantes faisant état de retombées économiques colossales du vélo, aussi bien pour l'industrie, le commerce de détail, le tourisme ou la logistique urbaine. Une étude menée en 2020 a mesuré que l'économie du vélo en France, fabrication, vente, réparation, conception et construction d'aménagements cyclables, pèse annuellement pour 2,5 milliards d'euros, 3,4 milliards de dollars, et représente 13 500 emplois. Si on y ajoute le tourisme à vélo et la logistique vélo, livraison, Les retombées économiques atteignent un total de 8,2 milliards d'euros, 11 milliards de dollars, tout en consolidant 78 000 emplois. Enfin, si l'on tient compte de toutes les externalités positives liées à la pratique du vélo, notamment en santé, le secteur du vélo contribue à la richesse nationale française à hauteur de 30 milliards d'euros tous les ans, 40 milliards de dollars. Pour avoir un ordre de grandeur, cette somme équivaut à deux fois le budget annuel du ministère de l'Éducation au Québec, pourtant le deuxième en matière de dépenses dans l'économie de la province. Et le Québec dans tout ça? Avec cette popularité grandissante du vélo au Québec et le rôle qu'il peut jouer tant sur le plan de l'environnement, de la santé que de l'économie, il serait plus que pertinent de mener une étude pour évaluer son poids dans l'économie nationale et ce qu'il rapporte collectivement aux Québécois chaque année. D'autres pays comme la France, l'Allemagne et des villes importantes comme New York, Toronto, Copenhague, Portland et Londres l'ont démontré avec des études. Le vélo est porteur de retombées économiques directes et indirectes gigantesques, et ce pour des investissements relativement minimes si on le compare avec d'autres secteurs. À l'heure où les prévisions économiques sont incertaines et où les orientations politiques et les projets d'infrastructure ne semblent pas toujours alignés avec les impératifs climatiques du moment, les investissements en transport actif, dont le vélo, apparaissent plus que jamais comme une solution simple et économiquement gagnante à des problèmes complexes. Pour cela, le gouvernement du Québec gagnerait à lancer une recherche sur la véloconomie afin de disposer d'un portrait chiffré précis et actualisé de ses retombées dans l'économie nationale. C'était « Quel rôle le vélo peut-il jouer dans l'économie ?» un texte de Jean-François Réau, paru le 11 mars 2023 dans « La Presse ».
Kiosque Magazine.
Petite histoire du féminisme au Québec. Un texte dans Extra Femmes, paru le 9 mars 2023 dans La Presse. Les Québécoises luttent depuis longtemps pour la reconnaissance de leurs droits. Récapitulatif express en 6 ères et quelques moments clés. De 1600 à 1764, les pionnières de la Nouvelle-France. Alors que le Québec qu'on connaît aujourd'hui se bâtit tranquillement, les femmes sont reléguées aux fonctions d'épouse, de religieuse, de mère. Les femmes de cette époque ont joué un rôle crucial dans la fondation du Québec moderne. Ce sont elles qui ont soigné les colons, organisé la vie quotidienne de leurs familles nombreuses et donné naissance aux enfants pour peupler la colonie. Un travail colossal. Moment clé. En 1644, Jeanne Mance fonde le premier hôpital de Ville-Marie, l'Hôtel-Dieu. De 1765 à 1864, hors du foyer. Les Québécoises commencent à sortir de la sphère domestique. Elles investissent le marché du travail comme ouvrières, commerçantes et institutrices, alors qu'on passe d'une société agricole à industrielle. Ce sont ces femmes qui, par leur travail philanthropique, tissent les bases du réseau d'assistance sociale de la province. Elles fondent des orphelinats, des établissements pour les mères célibataires, des refuges pour les plus démunis et des groupes d'entraide, entre autres. Moment clé. En 1833, on abolit l'esclavage au Bas-Canada. De 1865 à 1939, les premières luttes féministes. C'est durant cette ère que les Québécoises s'organisent pour revendiquer en bonne et due forme plusieurs de leurs droits, juridiques, scolaires et professionnels. Ces luttes importantes sont menées, surtout dans les grandes villes, par des modèles féminins dont on connaît encore les noms aujourd'hui. Robertine Barry, Dorimène Desjardins, Marie Lacoste Gérin-Lajoie, Idola Saint-Jean. Après la Première Guerre mondiale, les femmes de la province investissent les écoles d'enseignement supérieur, mettent sur pied des publications féminines et des groupes de femmes et pratiquent certains métiers autrefois réservés aux hommes. En 1878, à fonctions et compétences égales, les femmes ne touchent que 40 % du salaire des hommes. Moment clé. En 1918, les Canadiennes obtiennent le droit de vote après la lutte acharnée de celles qu'on appelle les suffragettes. Au Québec, il faudra cependant attendre 1940 pour que les Québécoises obtiennent le droit de vote au provincial. De 1940 à 1964, au cœur de la participation citoyenne. La lutte pour l'égalité et les droits des femmes se poursuit, notamment avec l'avènement de la contraception qui permet la régulation des naissances aux grandes dames de l'Église. Les Québécoises continuent d'avancer et de prendre la parole sur des enjeux importants, dont la scolarisation des filles, l'égalité salariale, la reconnaissance syndicale, la protection de la langue française, la contraception, la place des femmes en politique et la violence contre les femmes et les filles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les femmes quittent en masse leurs fonctions maternelles et domestiques pour se consacrer à l'effort de guerre, dans des occupations autrefois uniquement masculines, notamment dans les usines de munitions et les forces armées. Moment clé. En 1960, le gouvernement fédéral autorise la commercialisation de la pilule contraceptive. De 1965 à 1989, un féminisme pluriel. Des groupes politiques, syndicaux et communautaires militants sont mis sur pied par des femmes qui souhaitent participer de façon active à la vie politique, sociale, culturelle et juridique de la province. Pensons à la Fédération des femmes du Québec. Les Québécoises dénoncent avec vigueur les inégalités entre les hommes et les femmes et luttent pour leur autonomie. On commence à parler de droits égaux pour les femmes autochtones et racisées grâce au travail de militantes comme Mary Tou Axe-Early. Moment clé. En 1969, le docteur Henry Morgan Taylor ouvre sa première clinique d'avortement, qui est alors illégale. De 1990 à aujourd'hui, défricher le chemin vers l'égalité de fait. Même si l'égalité de droit est presque atteinte dans le Québec d'aujourd'hui, l'égalité de fait est encore un combat de tous les jours, surtout pour les femmes autochtones et racisées. Les Québécoises continuent de lutter pour l'égalité salariale, pour l'égalité au sein de la sphère familiale, contre la violence faite aux femmes et aux filles, contre les agressions sexuelles, contre l'homophobie, contre la transphobie et contre le racisme. Des mouvements sociétaux importants comme hashtag moi aussi ou hashtag Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, font bouger les choses et les revendications sont plus intersectionnelles que jamais. Moment clé. En 2012, Pauline Marois est nommée première ministre du Québec. Elle devient la première femme à occuper ce poste. Envie d'en savoir plus sur l'évolution des droits des femmes au Québec? Le Réseau québécois en études féministes, REQEF, en collaboration avec le Conseil du statut de la femme, a créé une ligne du temps interactive intéressante de l'histoire des femmes au Québec. C'était « Petite histoire du féminisme au Québec », un texte de Extra Femme, paru le 9 mars 2023 dans La Presse. Thank you. se plaindre de l'inflation, mais dépenser comme avant. Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 12 mars 2023 dans La Presse. Aucune journée ne passe sans qu'on entende parler des conséquences néfastes de l'inflation, de la hausse des taux d'intérêt et du prix du beurre sur le budget des ménages. Le sujet s'invite même à nos soupers de famille, aux rencontres entre amis. Il n'y a pas de doute, pourrait-on croire, c'est difficile financièrement pour la vaste majorité d'entre nous. Sauf qu'en général, le contexte économique ne nous a pas transformés en fervents adeptes de la simplicité volontaire. Au contraire, la demande pour les petits et grands luxes, comme les repas au restaurant et les voyages à l'étranger, augmente, nous apprenait la Banque Royale la semaine dernière. L'institution financière suit de près les dépenses discrétionnaires des consommateurs, celles qui ne sont pas nécessaires à la vie. Son constat est clair et net. Il n'y a aucun ralentissement à l'heure actuelle, surtout grâce à la demande pour les services. Même si le prix des billets d'avion a bondi de 28 % par rapport au niveau pré-pandémique, les Canadiens continuent de mettre les voyages au sommet de leur liste de priorités et d'accroître leurs dépenses dans ce poste budgétaire. On se plaint des prix, mais on achète quand même des billets d'avion car on veut voyager. C'est vraiment un domaine où les consommateurs sont responsables de l'inflation en ne réduisant pas leurs dépenses, m'a dit l'autrice de l'étude, l'économiste Carrie Freestone, qui travaille pour la Banque Royale à Toronto. Quant aux restaurants, ils accueillent plus de clients qu'avant la pandémie. Entre 5 et 7 % de plus, systématiquement, tous les mois, sans exception depuis un an. La hausse de taux d'intérêt n'a pas encore d'impact sur les dépenses discrétionnaires. C'est très unique. Normalement, les gens devraient se sentir serrés financièrement et freiner leur consommation, s'étonne Carrie Freestone. Certes, on ne remplit plus son panier d'épicerie comme avant. On troque un légume pour un autre moins cher. On favorise les marques maison. On regarde davantage les cahiers publicitaires. Et pour certains ménages à faible revenu, composer avec l'inflation est devenu un sport extrême. La dernière année n'a pas été de tout repos pour tout le monde, il faut en être conscient et compatir. Mais force est de constater que la stratégie de la Banque du Canada de hausser le taux directeur pour ralentir la consommation et par conséquent l'inflation ne donne pas des résultats très rapides. De nombreux phénomènes peuvent expliquer cette apparente incohérence entre le discours déprimé ambiant et les dépenses dans la réalité. D'abord, le marché du travail demeure vigoureux, avec un taux de chômage au pays à 5 % et à 4,1 % au Québec, à un cheveu du creux record de 3,9 % atteint en janvier. Avec une job, on sent moins l'urgence de couper dans les plaisirs de la vie. En plus, les salaires augmentent et les gouvernements ont distribué divers cadeaux, montant de 400 $ à 600 $ en décembre, aide au logement pour les aînés, ce qui a accru le revenu disponible ces derniers mois. C'est sans compter que bien des ménages ont encore de l'épargne COVID-19 à leur disposition, après avoir passé 2 années à moins dépenser. Ça ne durera pas éternellement, mais pour l'instant, la cagnotte procure une agréable marge de manœuvre. Il y a tout un aspect psychologique aussi. Après les privations, quoi de plus thérapeutique et satisfaisant pour le moral qu'une dépense de vengeance? Parce que je le vaux bien, comme disait la publicité. On a beau parler des hausses de taux d'intérêt, ce n'est pas tout le monde qui en subit les conséquences. Au Canada, seulement 35 % des ménages ont une hypothèque. L'idéal serait que la politique monétaire touche tout le monde de la même manière, mais les hausses de taux touchent disproportionnellement les ménages, 10 % qui ont un taux variable, explique Mathieu Arsenault, chef économiste adjoint à la Banque nationale. Pour le moment surtout, car à mesure que les propriétaires renouvelleront leurs prêts, ils auront moins d'argent à mettre ailleurs. Dans quelques mois, la consommation devrait donc se stabiliser malgré toutes nos envies irrépressibles. Car la portion du revenu disponible des ménages nécessaires pour assurer le service de la dette, hypothèque, carte de crédit, prêt auto, doit atteindre un niveau record de 15,2 % au deuxième trimestre, prévoit Carrie Freestone. Quand une aussi grosse part de sa paye part en intérêt, il faut ajuster son budget. Autrement dit, de gros nuages gris s'en viennent obscurcir les derniers bouts de ciel bleu. Déjà, on constate une forte augmentation du nombre de personnes qui transportent un solde sur leur carte de crédit de mois en mois. Au Canada, c'est le cas de 7 millions de personnes, plus 5,9 % par rapport à 2021, tandis que 1,22 million de Québécois sont dans cette situation, plus 1,2 % selon Equifax. Il s'agit d'un signe évident de stress financier. Le solde moyen sur nos Visa et Mastercard demeure plus faible qu'avant la pandémie. C'est encourageant, mais pour combien de temps? L'endettement non hypothécaire ne cesse de bondir parce que les consommateurs font ce que la société attend d'eux. Ils consomment. Ce faisant, ils nuisent à leur santé financière tout en arrosant le terreau de l'inflation. C'était « Se plaindre de l'inflation, mais dépenser comme avant », un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 12 mars 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.